L'écho des artistes du festival d'Avignon.
L'écho des planches part à la rencontre des artistes au gré de ses coups de cœur. Bonne écoute à tous sur l'écho des planches. Bonjour à tous, alors je suis de nouveau avec l'équipe artistique de Bérénice, puisque nous avions fait un entretien, mais nous avions interviewé le vent, chose très poétique, mais qui ne sert pas à grand chose. Et donc nous les retrouvons 10 jours après pour une nouvelle interview qui, je suis sûr, fera naître une discussion peut-être tout autre. Donc Bérénice qui se joue jusqu'au 30 juillet au théâtre du Verbe Fou à 21h10, avec une relâche le 26 où la compagnie présente une création, La mère est innocente, d'après un texte de Pauline Raymond, voilà, et dans une mise en scène de Maxime. Donc bonjour à tous.
Bonjour.
Voilà, donc j'espère que vous êtes contents d'être là pour enregistrer à nouveau cet entretien.
Oui, très content.
Très content. Et donc, on va d'abord commencer par parler de Bérénice, évidemment. Donc, d'abord, la dernière fois, nous avions évoqué le jeu très physique que vous aviez pendant ce spectacle, tous autant que vous êtes. Et voilà, j'aimerais que vous reveniez sur cette idée que je trouvais très intéressante. C'était toi, Ophélie, qu'en avait parlé, que ce jeu physique, finalement, essayait de traduire quelque chose d'une exactitude à l'endroit de l'émotion dans l'histoire de Bérénice.
Oui. un jeu physique, oui, tous, parce qu'en fait, on est parti du principe que quand on vit quelque chose de cette force-là, ça se passe à un autre endroit que l'intellect et l'intellectualisation. Et du coup, pour faire passer ces émotions qui vont de la joie à la détresse, à l'envie de mourir, de tout lâcher, il y a un moment, ça passe, ce que je disais la dernière fois, ça passe par le ventre, quoi. Ça passe par les tripes. On dit souvent au théâtre qu'il faut jouer avec ses tripes. Bon, ben là, je pense que c'est clairement le cas. Voilà, c'est un parti pris, c'est une volonté de mise en scène. Je pense que je dis pas de bêtises, Maxime, tu me corrigeras s'il faut, mais...
D'autant plus dans la poésie de Racine, c'est un des grands pièges, en tout cas qui nous est apparu en répétition, c'est de se laisser emporter par la poésie des mots, par le rythme, par le rondondant. Et arriver très vite cette nécessité du physique, de passer par le corps et même par du travail dansé, du travail en lutte, en exercice, pour voir de quelle manière vont résonner les mots, prendre physique, me vient l'expression, je ne sais pas si ça existe. Et du coup, oui, on s'est beaucoup basé aussi, nous, ce qu'on voulait faire passer, c'était cette histoire d'amour, cette séparation amoureuse, et qu'au-delà de la poésie magnifique de Racine et la manière dont la justesse avec laquelle il arrive à poser des mots sur les émotions qu'on ressent à ce moment-là, on voulait que le public puisse ressentir de plein fouet la détresse que ça peut provoquer. Et voilà. Et je pense que c'était peut-être une approche un peu différente du personnage de Titus, parce qu'il est beaucoup plus dans quelque chose d'intellectuel dans toute la première partie du spectacle, où il essaye de raisonner, de justifier, il essaye de trouver des choses concrètes dans la vie. Je te laisse en parler, Julien.
Ouais, le personnage de Titus, c'est plus comme c'est finalement un chef de guerre, il est quand même plus dans quelque chose de martial, de droit, de raisonner, et donc du coup plus centré et beaucoup moins dans le débordement en fait du corps. Et donc par rapport à Bérénice, oui, il y a ces deux personnages où Bérénice est très dans le corps, dans l'exaltation, dans tout ça, et Titus plus raisonné, plus centré sur lui-même, sur sa décision qu'il doit donner en fait.
Mais justement, il y a ce côté un peu martial du personnage de Titus, mais il faut rappeler quand même que Bérénice, je l'avais dit la dernière fois, je vais me répéter encore pas pour nos auditeurs, mais pour vous, c'est quand même une des plus belles histoires d'amour que la littérature peut nous offrir, que le théâtre peut nous offrir, que l'histoire aussi peut nous offrir. Parce que Tite-Live, je crois que c'est Tite-Live qui raconte ça, il le raconte différemment. Corneille, Racine en rajoute, hein, évidemment. Mais il y a quand même ce fondement de quelqu'un qui est prêt à abandonner tout un empire pour l'amour d'une femme. Et du coup, voilà, comment est-ce que vous avez vu cette dimension? En fait, c'est plus qu'une dimension, c'est presque ce qui fonde tout le texte de Racine. Parce que vous avez, rappelons-le, vous avez viré, entre guillemets, vous avez écarté Antiochus de l'histoire.
Oui. On a beaucoup travaillé sur l'aspect historique, donc qui était la véritable Bérénice, le véritable Titus. Et dans nos recherches, il est apparu qu'Antiochus n'était pas véritablement la personne dont qu'il est dans la pièce. Racine a voulu créer un triangle amoureux, c'est une dramaturgie plutôt classique. Et on a voulu essayer de concentrer l'action uniquement autour de Titus et Bérénice. On a essayé. Et en fait, dramaturgiquement parlant, ça marche. Ce qui montre encore une fois le génie de Racine et de son écriture. Et oui, en effet, c'est une très belle expression de l'amour. Après, de la manière dont elle s'exprime, c'est quand même particulier puisque c'est lié au pouvoir. Donc on a quand même en sous-couche cette volonté et de Bérénice et de Titus d'accéder au pouvoir. Et comme c'est un parcours de vie, ils vivent pour ça, pour régner, ils sont nés pour ça. C'est comme si on est princesse ou prince d'Angleterre, on sait dans quoi on grandit, on sait où est-ce qu'on va arriver. Et du coup, ça augmente d'autant plus la difficulté du choix pour Bérénice, pour le coup, de renoncer à l'Empire, c'est renoncer aussi à toute une construction de vie, à tout ce qu'elle a rêvé pendant plus de 45 ans, elle a déjà là. Donc oui, ça augmente, ça renforce la dramaturgie puissante de cette pièce.
Il faut que je complète ce que tu veux dire. Non, tu as tout dit, Maxime. T'as quelque chose à dire, toi?
D'autant plus que cet amour, en fait, nous, on peut le nourrir par l'histoire, parce que dans la réalité, l'amour que Titus a porté à Bérénice et réciproquement, finalement, quand il y a eu cette rupture, l'une est retournée en Judée et morte quelques années après de maladie, tout de suite après. Et tandis que Titus, lui, je crois que c'était deux ans après s'être lancé dans des batailles, a également contracté une maladie. Donc c'est vrai qu'il y a le prolongement de l'alexandrin dans les corps, parce que c'est pour nous un support de jeu aussi, d'être reposé sur le langage pour ensuite l'exprimer sur le plateau. Et en même temps, la situation, elle se prolonge presque maladivement dans les corps, puisqu'on voit que dans la réalité, les amants se séparent après leur séparation, meurent quelques années après, sinon instantanément. Donc c'est une expérience d'arrachement, enfin, qu'on voit entre Titus et Bérénice sur le plateau. Il y a vraiment c'est ça, comme si c'était une part qui, par devoir, doit, pas une tumeur, mais c'est presque une ablation. On a l'impression, quand on voit cette scène de rupture dans la scène centrale qu'on appelle la scène du trône entre nous, Où tous deux, finalement, on vient à l'inéluctable et l'assument. Et peut-être que, comme tu dis, Maxime, le fait qu'ils soient nés pour régner, en fait, ils assument complètement que le devoir s'impose, finalement, au-delà de leur personnalité, enfin de leur personne et de leur bonheur individuel, quelque part. Il y a aussi ça.
Et donc oui, la dimension historique est importante et jusque dans la danse, parce qu'en fait j'ai repensé la dernière fois à tout ça, et il m'a semblé que le rapport à la danse que vous introduisiez, alors je ne sais pas si vous y avez pensé quand vous avez fait le travail, mais il était très proche du récit de Salomé dans la Bible, donc avec le roi Hérode qui demande à Salomé, je ne sais plus si c'est l'évangile de Luc, non ? Je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est la décollation de Saint Jean-Baptiste, où voilà, Salomé demande la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau. Mais pour arriver à ça, le roi lui dit, fais tout ce que je veux. Il lui demande de danser pour elle, et je te donnerai ce que tu veux. Et donc il danse, il y a cette fameuse danse des sept voiles qui est très orientalisante aussi dans la Bible, qui est aussi dans la Bible une dimension orientalisante. Et du coup, vous avez aussi beaucoup de danse dans Bérénice, un rapport très charnel à la danse, une espèce de transe aussi parfois qui peut faire peur, qui peut effrayer. En tout cas, il y a des gens qui sont effrayés par cette transe. Je me demandais comment vous avez travaillé ce rapport. Est-ce que vous avez vraiment fait la filiation finalement avec ce rapport très très charnel et peut-être aussi sexuel, parce que c'est ça dans la Bible à la danse, ou pas du tout?
Alors dans les répétitions, on est allé par étapes, comme je vous l'ai dit. Le texte de Racine et sa poésie, on voulait pas tomber dans quelque chose de chanté ou quelque chose hors du sens. Donc on est passé par beaucoup de scènes physiques pour raconter l'histoire. Donc ça a été quelle est leur intimité, quelles sont leurs de quelle manière on peut exprimer la passion, on peut exprimer l'inquiétude, l'attente. Donc on a écouté beaucoup de choses, on a essayé des choses sur le plateau. Il y a des scènes de rituels en pagaille qui ont été proposées. Et au fur et à mesure, en parallèle, on travaillait le texte, on mettait en place les scènes, la mise en espace, la mise en bouche, le travail des vers. Et un peu naturellement, je ne sais pas s'il y a eu une décision en tout cas, mais un peu naturellement, finalement, ces moments physiques, ces moments de danse se sont insérés. Et rythmiquement, ça fonctionnait très bien, ça se mariait très bien. On est même allé jusqu'à essayer de marier des musiques qui sont a priori très éloignées, mais qui pour moi résonnent sur chaque étape de la décision de Titus et Bérénice ici. Je crois que la pensée principale du départ, c'était de réussir à marier l'ancien, le vers de Racine, et aujourd'hui, nous qui vivons dans cette société, à notre temps, comment ce qu'on aime, ce qu'on vit, ce qu'on a envie d'exprimer. Et pour que ça parle au plus grand nombre, surtout.
Quelqu'un veut réagir ?
Après, au-delà de ce qu'on a fait, et je pense qu'il ne faut pas oublier que de toute façon, la danse, c'est quelque chose qu'on pratique depuis la nuit des temps, et que du coup, que ça soit... pour la danse orientale, la danse orientale, c'est pas vraiment orientale, mais les différentes danses qu'on a proposées, c'est, je pense, aussi des choses qui se faisaient à l'époque, et que du coup, par exemple, Titus au début fait une espèce de haka, si on peut appeler ça comme ça, pour une offrande au dieu, pour l'enterrement de son père, et du coup, c'est des choses qui étaient sûrement faites par les guerriers pour des offrandes aux dieux. La danse de Bérénice pour Titus, quand elle le retrouve, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, et donc du coup, au-delà que... je pense que tout ça se lit bien, en fait, que ce soit la parole et ses danses, ouais.
C'est vrai que c'était intéressant, Raphaël, que tu parles de Salomé, parce que personnellement, je ne l'avais pas forcément vu, mais il y a vraiment cette porte d'entrée-là, comme quoi Bérénice, étant reine de Judée, elle a aussi toute cette culture-là, orientale, hébraïque, et du coup, qui là, nous permet sur le plateau d'amener toute cette...
Salomé fait partie de la nébuleuse construction de Bérénice. C'est rigolo d'ailleurs, parce que hier on en parlait avec une spectatrice, ou avant-hier, je sais plus, qui elle l'a vu tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite elle a pensé au mythe de Salomé, et à d'autres choses aussi, mais elle nous a parlé très rapidement de ça. Après, pour rebondir encore une fois sur la danse du ventre, à la base, par exemple, tout bêtement, alors je pratique pas la danse du ventre, c'est pas ça que j'ai pas la prétention de dire ça, mais la danse du ventre, c'était à la base un rituel pour célébrer une possibilité de fécondité, c'est-à-dire qu'on faisait la danse du ventre entre femmes avec quelque chose de très ritualisé, de très finalement très sacré, de très pour permettre de porter un enfant, pour pouvoir donner la vie. Et voilà, toutes ces choses-là font partie de la construction du personnage de Bérénice, mais aussi également de Titus, par le haka, par des choses beaucoup plus tribales, beaucoup plus guerrières. Voilà.
Et du coup, il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est la catharsis, finalement, qui passe à travers cette danse et la situation. Enfin, l'enjeu de la pièce pour le spectateur, c'est comment il va investir son propre sentiment amoureux à l'aune de cette séparation. Et finalement, lorsqu'on assiste à cette séparation, on voit qu'elle s'illustre donc dans le verre, un vrai jeu théâtral avec le quatuor qui est sur scène, enfin Titus, Bérénice, Phénice, Paulin, et aussi cette danse quand vous le faites à deux, à un moment Titus et Bérénice. En tout cas, pour moi de l'intérieur, c'est aussi dans les moments où l'émotion, on n'est pas dans l'intelligible, c'est là où véritablement elle passe, parce qu'il y a ce repos du corps là, et que je trouve que la danse participe de la catharsis, enfin, en fait, si tu veux.
Oui, et donc je pense que votre prochaine création, bon, vous avez La mère est innocente, hein, dont on va parler, mais je pense que vous devriez vraiment, vu le travail que vous avez fait sur Bérénice, vous intéresser à la Salomé d'Oscar Wilde, vraiment.
D'accord.
Je vous imagine tellement jouer ce texte que voilà, je le vois presque jouer sous mes yeux en vous voyant à côté. Donc voilà, vraiment.
Nous allons le
intéressez-vous,
lire avec attention.
Intéressez-vous à ce texte parce qu'en fait il y a tout ce que vous travaillez, tout ce rapport à la danse, tout ce rapport aussi un texte. Wilde, il a carrément lui épuré son texte. Il a fait écrit à partir de la Bible, et puis je ne sais pas si vous le savez, mais des pièces de Salomé, il y en a eu peut-être une centaine décrites au 19e siècle, et la seule vraiment qu'on retient, parce que elle était justement épurée, pas nimbée de religion, de mythes un peu dépassés, mais vraiment qui cherchait à l'endroit de l'amour véritablement, parce qu'Oscar Wilde, ce qui est intéressant, et c'est peut-être ça aussi qu'il y a dans Bérénice, c'est qu'il n'y a pas cette violence dans Bérénice, en fait, parce que Bérénice, elle se résigne à la fin, elle abandonne Titus, alors que justement, dans la Salomé d'Oscar Wilde, à partir du moment où Saint Jean-Baptiste refuse de l'embrasser, parce qu'elle va dans sa cellule et elle veut l'embrasser, à ce moment-là, elle va, voyant cette impossibilité de l'amour, elle va jusqu'à demander sa tête sur un plateau. Et voilà, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, je pense que vous pourriez vraiment admirablement faire. Mais on va parler, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, de votre nouvelle création, hein, La mère est innocente.
Oui.
Vous voulez rajouter quelque chose sur Bérénice?
Tout n'est pas dit, mais je pense qu'on en a dit beaucoup.
Alors du coup, j'ai vu ce spectacle, je ne sais plus quand est-ce que c'était, le 15 juillet, non, ou le 17? J'ai oublié. Le 19, voilà, donc j'ai vu ce spectacle le 19, et donc c'est une des comédiennes de la compagnie, donc Pauline Raymond, qui a écrit le texte, et c'est joué, je ne me souviens plus du nom...
De Clara Pargribel, voilà. Qui fait la chorégraphie et le jeu, et Pauline Raymond.
Et donc, parlez-nous un peu de ce travail qui est encore en construction, qui est un projet déjà en partie abouti. Voilà. Comment est-ce que vous voyez ce travail dans les prochains mois?
Alors c'était, on a eu une envie express de s'exprimer, de pouvoir raconter sur un sujet qui est d'actualité, qui est le rapport de ces personnes qui quittent des pays en guerre, et de le confronter à notre façon à nous de aussi peut-être fuir quelques réalités de notre société. C'est une remise en question de nos sociétés occidentales, de la manière dont on les accueille et de la manière dont nous on vit ces choses-là. Donc on a opposé on a fait se rencontrer deux femmes, une qui fuit un pays en guerre, qui traverse une mer, on ne sait pas laquelle, d'ailleurs, ça pourrait être toutes les mers de la planète, et une femme qui fuit un pays en paix, elle fuit surtout le silence face au viol, qui est quand même dans nos sociétés très très présent, et même si on en entend parler dans les médias, finalement ça semble très lointain, ça semble comme si ça n'arrivait pas tant que ça, finalement, alors que ça arrive tout le temps. Donc c'est très délicat de parler de ces sujets-là, donc on a voulu aller dans quelque chose qui n'est ni dans le spectacle, ni dans la sobriété, ni dans le drama, dans le dramatique. On voulait aller dans la sincérité, la sobriété d'un partage d'expériences de vie. La danse intervient au-delà des mots. Alors, je révolutionnerai en disant ça. C'est une nécessité pour nous, un besoin. On le fait et on essaye d'explorer cette rencontre aussi par autre chose que les mots. Ici à Avignon, on présente une deuxième étape de travail, deuxième étape d'écriture, de mise en scène, et qui va aboutir en décembre sur l'étape finale du spectacle et de l'écriture au centre Rébériou de Créteil. Et voilà, c'est une longue aventure et on est très très content de présenter ce travail-là.
Et donc, c'est un travail aussi qui part... D'une volonté peut-être autre que celle de Bérénice, d'essayer de dire un texte d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est important ça aussi, parce que Bérénice était votre premier spectacle à la compagnie, est-ce que c'est important comme ça pour vous de varier les époques, peut-être, pour la compagnie
Je me pose pas véritablement la question, parce que je pose pas texte ancien, texte nouveau. En fait, c'est plus des histoires que j'ai envie de raconter, qui me touchent. Et après, il y a des défis. Finalement, quand on manque du Racine, c'est un certain défi. Et j'estime que... Voilà, j'essaye en tout cas de le traduire comme si on le disait aujourd'hui. Et je pense qu'il y a certaines personnes... Enfin, on pourrait imaginer parler comme ça aussi. Revenir à ça, peut-être dans un futur. Cette poésie, à ce rythme. Comme je peux monter des textes antiques ou du texte contemporain, ce n'était pas une volonté en tout cas de monter du contemporain après du classique. Voilà, je crois que j'ai envie de me confronter à tout et chaque chose est un défi. Voilà.
Et donc on va parler d'une nouvelle création aussi, alors qui n'est pas celle de la compagnie. J'aimerais que tu puisses en dire quelques mots. Donc vous montez donc le collectif Rocking Chair. Monte Salinger de Bernard-Marie Coltès dans une mise en scène de Léa Sananès au Théâtre des Déchargeurs. Donc ça se jouera tous les lundis soirs du 11 septembre au 18 décembre à Paris. Et donc voilà, tu es comédien dans le spectacle. Voilà, si tu pouvais nous parler un peu du travail autour de Salinger.
Oui, c'est vrai que parallèlement donc aux créations menées par la compagnie Les Rivages, moi je travaille avec la compagnie, le collectif artistique Rocking Chair, et depuis un an maintenant, on travaille sur la pièce donc Salinger de Bernard-Marie Coltès, tirée des romans du coup de Salinger, L'Attrape-cœur, Franny et Zoé, Zoé. Et voilà, donc là on va être amené à le jouer pour représenter pour la première fois pour plusieurs dates successives, donc tous les lundis soirs du 11 septembre au 18 décembre. C'est une des premières pièces en fait de Coltès qui a été publiée, qui est une pièce d'apparence souvent obscure quand on la découvre, qu'on la lit pour la première fois, parce qu'elle est faite toujours de prolepse, analepse, de retour, l'histoire d'un frère qui s'est suicidé en pleine période de la guerre du Vietnam, et ce qui demeure dans une famille après le suicide d'un être aimé, en fait une famille... comme il est dit dans la pièce, une famille d'intellectuels qui a un esprit assez retors avec des... c'est vraiment un portrait familial aussi de ça, avec une part de magie, et puis les textes qu'on connaît de Coltès fourmillants et en même temps énigmatiques par instant, où les personnages dévoilent leurs contradictions à l'intérieur du langage, enfin dans leur parole qui est assez tourbillonnante. Ouais.
Bon, en tout cas, on suivra cette production à la rentrée. Quelqu'un veut rajouter une autre actualité, peut-être ?
Il y a un autre travail qui se fait avec Les Rivages aussi, où Maxime Prévost s'associe, notamment à la lumière et au conseil artistique. C'est une création qui est faite à partir d'un poème qui est en lien avec la création La mère est innocente, qui s'appelle La destination. et qui est un poème-concert écrit à partir du texte de Christophe Mahy. Alors Mahy, pas le chanteur, hein, Mahy, M-A-H-Y. Bien souvent les gens coïncident. Et il s'agit en fait d'un témoignage d'un réfugié syrien, donc une création d'un poète français qui parle ce réfugié syrien et qui est bloqué à Calais, autrement dit l'antichambre de la destination. Et donc c'est une pièce qui a été présentée récemment au Lavoir Moderne Parisien pour deux soirées, qui va être reprise à la rentrée. Donc c'est vraiment un poème concert avec des musiciens improvisés. Il y a un saxophoniste, un percussionniste sur le plateau et un comédien déclamant qui slame flûte en même temps sur ce texte là. Je ne sais pas si Maxime tu veux en dire deux mots, toi qui étais aux consoles derrière, également improvisateur en lumière.
Non, je crois que tu as tout dit. C'est vrai que c'est un sujet qui est très lié à la mérite innocente. Et d'ailleurs, c'est drôle qu'on ait monté un projet en parallèle avec deux auteurs différents. Et avec un point de vue peut-être différent aussi, une manière d'aborder le texte, puisque là, c'est pour la destination, donc c'est musicien et Gabriel qui lit cette histoire de traversée. Et donc, qui est un point de vue masculin, qui est un point de vue masculin. Alors que nous, on l'aborde vraiment du point de vue féminin. Et est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je pense que... Bon, faut voir les deux. Mais il y a quand même quelque chose. Voilà. Après, les autres actualités, on est une compagnie qui travaille beaucoup. Et on va travailler sur Les Larmes Amères de Pétrin de Vancamp à partir de septembre pour une présentation du spectacle le 28 et 29 septembre au Centre d'animation Paris-les-Halles. Donc ça va être un beau défi aussi. Et voilà, parmi les projets en construction qu'on a déjà commencé à répéter, il y a Soliloque, tiré des textes de Jean-Pierre Siméon, qu'on travaille avec Katia Gros, qui est sur Bérénice aussi. Et de Jean-Pierre Siméon toujours, Stabat Mater Furiosa, qu'un texte qui est beaucoup monté, mais qu'on a terriblement envie de mettre sur le plateau. Je crois qu'il y a une volonté de s'exprimer par rapport... cette violence qui devient de plus en plus proche et beaucoup plus familière en France. Et c'est tant mieux que la conséquence soit une prise de conscience, et on a envie de participer à ça. Voilà.
En tout cas, on suivra avec attention votre travail, puisque la radio s'exporte sur Paris l'année prochaine, et donc à l'occasion, on pourra également faire de nouveaux entretiens et de nouvelles discussions.
Voilà. Ben avec très grand plaisir.
Ben, merci à tous. Quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Merci beaucoup.
Merci.
Donc je rappelle que Bérénice se joue jusqu'au 30 juillet au théâtre du Verbe Fou, avec une relâche le 26 où la compagnie Les Rivages présente sa nouvelle création La mer est innocente. Merci à tous. C'était Raph pour L'écho des planches.